bonjour.
Morgane Gavignan, Florence Mendez, Jérémy Crédville, Tanguy Pastureau et notre invité Michel Bouchard.
J'adore.
Nous allons parler de l'Avare avec lui. On ne parle pas de football.
Ah oui.
C'est l'Avare de Molière.
Je connais pas.
Oh.
Quoi?
J'ai pas compris.
Bah, l'Avare.
Alors, l'Avare, c'est la vidéo.
C'est la vidéo, tu sais, pour
l'arbitre
vidéo. Oui. Oh.
Vidéo, non, je savais pas non plus.
Au ralenti.
Vidéo assistant referee.
Tu sais, c'est okay.
Quand l'arbitre fait un rectangle okay. pour dire qu'il va aller regarder les vidéos.
Il fallait l'avoir. Hein,
ça s'appelle l'Avare.
Oui, ouais. Okay.
Ah bah
moi non,
mais.
Il fallait l'Avare.
Je ne sais pas. Les vannes ne sont pas faites pour être comprises, forcément.
Non, non. C'est mieux quand même.
C'est pas Jérémy.
C'est mon domaine.
On va attaquer ce blind test autour de Michel Boujna et de Molière. Mais comment?
Monet, Tanguy, Pink Floyd.
Oui.
Ah, ça commence.
D'accord. Okay. Il y a un moment, il faut jouer.
Get back. I'm on fire, Jack. Keep your hands off of my stack.
Ok.
Money.
Ah oui, l'argent. Yeah.
C'est au tour de l'argent, oui. Qui chante ça?
L'argent trop cher, Leïla.
Ah ouais. Non, téléphone.
Alors c'est un autre cher, Leïla.
Ouais,
ouais, non, mais non.
C'est dans le désordre, mais ça passe. Moi, je vais être nul à ce blind test, je suis pas vénal.
Oui, mais tu es musical.
Tanguy. Ah bah,
Monet.
Je suis pas très bon
d'abord.
Je sais, mais je. Voilà, ça va revenir.
C'est Leïla, c'est L-E-I-L-A.
Tréma.
L-E-I-L-A. Qu'est-ce que c'est?
Ça y est, Jérémy a trouvé une nouvelle chronique, mais ça sera pour la semaine prochaine, t'as pas le temps d'écrire là tout de
suite.
Mais
tu
l'as.
Ça va vite, moi.
Ah
Tanguy, Dire Straits, Money for Nothing.
J'adorais, j'avais sur une cassette audio, c'est la première chanson qui ouvrait ma première cassette.
C'est vrai?
Bon, oui.
L'intro est très longue. Très très longue.
J'adore la.
Ding, 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 ding.
Ouais.
J'adore. Ok, je laisse.
Attends. Okay. Ça va venir.
Tu es bien, Guita.
Ouais.
Ça monte, hein.
Et il y a un invité sur cette chanson, c'est qui?
Je sais pas, je suis trop
petite. C'est Yannick Noah.
Non, c'est Sting.
Ah, non. Ah bon?
À la fin.
Attention.
Et le moment qu'on connaît tous.
Je sais pas. Attention, c'est parti.
Celui-là. Là, je l'aurais eu.
Bon, est-ce que j'ai le droit de faire une confidence?
Oui. Oui.
C'est que j'ai totalement demandé à Jean-Jacques Goldman de s'inspirer de cette intro pour faire le générique de Taratata.
De Taratata. Ah ouais. Dun, 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 dun. Ça donne quoi?
Non, le début avec les instruments qui démarrent. Avec
ah
la,
oui,
avec
ah la, oui c'est la, vrai la, maintenant qu'on y pense.
Comme,
ah ouais.
Comme des instruments qui s'accordent, la batterie.
Il faudrait ainsi réécouter le générique de Taratata maintenant en fait pour se rendre compte.
À tout de suite.
Oui. Dun, 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 dun. La bouche,
là, on doit deviner la musique, là.
Non, mais non,
non, non,
d'ailleurs,
Fate.
Toujours d'ailleurs, Fate.
Merci, Morgane. Je ne vous ai
pas posé la question.
Remets-la une fois.
On est bien mardi.
Tu veux que je te dise ce qu'on me dit en régie quand j'ai dit est-ce qu'on peut mettre le générique de Taratata pour l'écouter?
Non, non,
Tanguy, il a qu'à écouter, il a qu'à regarder l'émission.
Oh, mais voilà, je la regarde de temps en temps.
Non, mais on a celui de The Artist.
Oui.
Ah oui, d'accord.
C'est aussi le générique de
C'est pas sorti, ouais.
C'est venu après, d'ailleurs, deux ans après.
Oui, hein.
Mais vous avez qu'à balancer, vous avez raison. Qui chante ça?
Ah, ça, c'est une guitare. C'est pas Johnny?
Non!
Tanguy au hasard, les Shadows?
Non!
Elvis?
Non!
Ah bah les Beatles, Tanguy,
oui,
bien sûr! Monet, that's what I want!
C'est terrible, j'ai essayé de le dire et je me rends compte que j'ai prononcé Tanguy au lieu de Florence.
Attends, on en est comment au point là?
Bah on est entre vous deux là, les gars.
On en est.
Trois Tanguy de Leïla.
Exactement, trois Tanguy de Leïla. Et je le redis, on l'a déjà dit à ce micro. La série Get Back sur Disney, elle est totalement dingue.
Ouais.
Oui, oui, faut voir ça. Parce qu'on voit les Beatles, la manière dont ils travaillent pour le dernier album. On sent les tensions, on sent la potentielle séparation.
Il faut aimer les Beatles. Hein. Ouais, c'est 5 fois 1h30, je crois.
Il faut les adorer.
Non, c'est 2 heures. Ça dure plus de 2 heures chaque, chaque extrait.
Il y en a pour 9h30.
Mais c'est Peter Jackson, le réalisateur. C'est incroyable qu'il y ait de telles images. En plus, eux se moquent en disant on est d'accord que nos discussions sont secrètes et que tout est filmé avec des micros. Et c'est extrêmement drôle. Mais surtout, il y a des punchlines, il y a des vannes balancées un peu agressives. Entre eux, Ringo Starr en a rien à foutre. Lui, il a la batterie. Il attend que les choses passent.
Lui, il était stoïque.
Et par contre, George Harrison, moins. C'était très tendu. Ouais. Et on sent que c'est un peu McCartney qui a tenu à bout de bras. En tout cas, pour que cet album arrive. Regardez-le, c'est passionnant. Get Back. Qui chante ça ?
Leïla.
C'est Jean-Michel Jarre.
C'est Donna Summer.
Oui, bravo.
Ah oui.
Personne n'a remarqué que c'était le générique de... Non,
The Friends.
Égalité entre Leïla et Tanguy. C'est quand vous voulez, hein, les autres. Hein, pour
j'attendais le dernier moment.
C'est autour, pénale, moi.
Autour de l'argent. Mais peu importe. Même si l'argent ne t'intéresse pas, la musique peut t'intéresser. Ça rapporte 4 points.
4 points, ça ?
Et la victoire ?
Ah oui. Du coup, je peux le dire.
Ça va être un truc français, ça, non ?
N'hésite pas.
Alors Jérémy, c'est Louisy Joseph.
Là c'est français, ouais.
Ça aurait pu.
À tout moment.
Policier.
Laurence, Juliette Armanet.
Non, c'est un duo homme-femme. Ils ont fait un énorme succès mondial.
Sonny and Cher. Non,
Tanguy, Lilywood and the Freak.
Exactement. Ah, oui, Lilywood and the Freak, Prayer in C pour le tube mondial, bien joué.
Les seuls français qui chantent en anglais, c'est eux que je connais. Donc.
Il y en a d'autres.
Il y a Cocoon.
Absolument. Ça s'appelait You Want My Money. C'est surtout une victoire de Tanguy.
Bravo.
Merci.
Merci d'accueillir Monsieur Bouchard.
Oh oui, Michel.
Original. Avec Nagui.
Paul Bougenat qui...
Paul
c'est son frère.
C'est pas grave.
Tu veux une consulte ?
Ça fait longtemps qu'il déraille.
Il y a Harry aussi. Non, mais on peut faire toute la famille. Non, c'est Michel.
Il est déjà bourré.
Qui est bien notre invité et qui était au téléphone. Enfin, je sais pas. Bref,
j'avais oublié d'enlever mon oreillette. Je suis désolé.
C'est bien l'écoute assistée. L'avare de Molière. Cette mise en scène dingue. Moderne, incroyable de Daniel Benoît, qui est un peu le taulier, le patron à Antibes, c'est ça du théâtre.
Oui, d'un magnifique théâtre qui s'appelle Antea.
Antea, oui.
Qui est vraiment un endroit magnifique et qui est en plus pas loin de chez moi, donc c'est bien.
Et Daniel Benoît étant acteur, metteur en scène, en plus d'être programmateur, directeur artistique de ce théâtre.
Oui, bien sûr. C'est un grand metteur en scène et c'est un grand spécialiste de Molière, et c'est un spectacle que j'ai pas voulu lâcher, parce que samedi, après-demain,
ouais,
c'est ma 4e première.
Et ah oui, c'est la...
J'en peux plus.
Et alors, c'est en communication, c'est assez bizarre, parce qu'on dit que c'est le 400e anniversaire de la naissance de Molière. Or, on sait pas exactement quand il est né. C'est le 400e anniversaire de son baptême. C'est la seule date que l'on ait, c'est le baptême de Molière, pas la naissance.
Absolument. De toute façon, je sais relativement peu de choses sur lui, parce qu'on sait relativement peu de choses sur lui.
On sait quand même que c'est lui qui a joué Harpagon pour le premier rôle.
Ça, c'est sûr.
Et de jouer un rôle écrit et interprété par Molière, on est envahi, on est ému.
C'est un rôle monstrueux. Quand Daniel Benoît me l'a proposé, j'ai dit non d'abord. Après, j'ai dit oui. Et après, j'ai relu la pièce et j'ai dit mais qu'est-ce que je suis fou moi de faire ça.
Parce que
c'est l'Himalaya, ça fait partie des 20-25 grands rôles du répertoire. C'est monumental.
Mais justement, ça doit donner envie ou ça fait peur.
Ça fait très peur. Et puis, il y a une phrase à un moment donné qui a tout changé, qui dit c'est la flèche qui dit ça. Il dit la flèche c'est le valet du fils de Molière. Ouais. Du fils de Harpagon, il dit « De tous les humains, c'est le moins humain. » Mais ça ne veut pas dire qu'il est inhumain. Il est peut-être inhumain à la fin de la pièce, mais il est encore humain un peu. Il est capable d'être amoureux,
ouais.
Il aime mal ses enfants, il est véritablement désespéré, il est malade, il va mourir, comme Molière d'ailleurs.
Monstre est humain de toute façon. Monstre est humain.
Absolument. Et à partir du moment où je savais qu'il y avait quelque chose encore d'humain chez cet homme, alors je pouvais le jouer.
Il y avait quelque chose à défendre.
Exactement.
C'est délicat de résumer l'avare, mais en tout cas, ce qui est relativement fréquent dans les pièces de Molière, c'est que il y a une histoire de mariage forcé. D'ailleurs, pour les deux enfants, les deux sont amoureux de personnes différentes, mais pas suffisamment riches aux yeux de d'Harpagon et de cet avare. Pire que tout, effet comique, évidemment, lui décide aussi de se marier avec une roturière, mais manque de bol, c'est la même que celle que son fils veut épouser.
Le fils sait que, évidemment, le fils sait que son père veut épouser cette fille.
Dès le début.
Ouais. Ouais. Ah oui, très vite. Puisque il y a une scène formidable où il lui dit, le fils rentre en disant je suis amoureux. Il dit ça à sa sœur. Deux minutes après, Harpagon arrive. Et il dit bon, je vais vous parler de mariage. L'autre, il est, il dit mais est-ce que vous connaissez une fille qui s'appelle Marianne? Le fils, ouais, super. Dans sa tête, il se dit super. Il dit, comment vous la trouvez, le fils? Ah, elle est d'enfer, mais vraiment, et vous ne trouvez pas que ça serait une épouse formidable? Ouais, super! Et il lui dit, à la fin, il lui dit, ben, c'est super que vous la trouviez super, parce que je vais l'épouser.
Et il tombe dans les pommes.
Et l'autre, il tombe dans les pommes. Et c'est à la fois drôle, et en même temps, c'est d'une violence extrême.
Évidemment.
Mais le père ne sait pas que le fils est amoureux de cette fille. Donc, il va le savoir au quatrième acte.
Et tout se fait d'ailleurs comme ça aussi. C'est rempli de quiproquos, c'est rempli de manipulations.
C'est un chef-d'œuvre.
Évidemment.
C'est au-delà du radinisme. Vous savez, on parle tout le temps de Macassette et tout ça, évidemment. Mais en fait, c'est au-delà. Le vrai sujet de la pièce, c'est un, le désespoir, et deux, une histoire de famille.
Ouais, puis une histoire d'amour, les histoires d'amour.
Mais
aussi,
bien sûr,
c'est ça, oui.
Et la rivalité entre le père et le fils, la fille qui couche avec le. Vous vous rendez compte que ce type, Harpagon, il apprend que la femme qu'il aime, elle est amoureuse de son fils. Et son fils est amoureux de sa fille.
Et inversement. Et surtout,
elle
a plutôt l'âge de se marier d'ailleurs avec son fils.
Mais bien sûr, elle est beaucoup plus jeune que lui. Ouais. Il lui dit à un moment donné, j'ai peur qu'un homme de mon âge ne soit pas de son goût. Sa fille, elle couche avec le seul mec en qui il a confiance, et il apprend que le seul mec en qui il a confiance, qui est son intendant en général, il y a volé son pognon. il a plus rien.
Et puis on en arrive aussi à des retrouvailles pour la grande scène de la fin, avec des personnes qui se croyaient orphelines ou abandonnées ou sans famille, aussi avec des révélations.
Ah ouais, c'est Molière. Il finit toujours ses pièces en dirait Santa Barbara.
Ouais. Et surtout tout en 3 minutes, quoi.
Il règle le problème.
Allez, voilà.
En fait, on a l'impression que
ça durait 2 heures, mais maintenant je vais vous dire tout.
Il faut bien défaire les nœuds.
Ouais, exactement. On a l'impression que la fin pour Molière, c'est pas la chose la plus importante. Ouais. La chose la plus importante, c'est ce désespoir. Mais c'est de lui qui parle. L'avarice, c'est un masque. Le vrai sujet, c'est ce que vit Molière à ce moment-là. Il est amoureux de la fille de sa femme. Elle est beaucoup plus jeune que lui. Il a 2 enfants avec qui il s'entend pas très bien, ou 2 ou 3 d'ailleurs. Je pense qu'il y a un spécialiste qui va venir. On m'a dit tout à l'heure.
Et Molière.
Ouais, il y a Molière qui vient. Molière.
Exactement.
Ça, c'est fort. On va pouvoir lui demander.
Et
d'autre part, il est malade. Il sait qu'il est malade. Il écrit cette pièce en 8 jours. Vous vous rendez compte? C'est incroyable. Je vous jure, quand on travaille dessus, Michel Bouquet disait, ça fait 15 ans que je travaille sur l'avare, je commence à peine à la connaître, la pièce. Moi, grâce au Covid, ça fait 3 ans que je suis dessus.
Vous avez d'ailleurs, vous reprenez un rôle qui a été interprété, je l'ai dit, par Molière, par Michel Bouquet, par Michel Serrault, par Michel Aumont.
Par Baudalides.
Oui, alors j'allais dire, il y avait beaucoup de Michel, mais là, vous me foutez en l'air la vanne.
Pardon.
Non, mais blague à part, est-ce que vous aviez déjà vu l'un de ces...
Non.
Michel Serrault, Michel Bouquet.
J'ai vu Michel Bouquet, c'est tout.
Dans l'avare.
Mais j'ai pas voulu, quand j'ai commencé à travailler dessus, j'ai pas voulu y penser parce que c'est trop lourd à porter. Si je me mets à penser à tous ces grands acteurs qui ont joué ce personnage... j'arrête les répétitions.
Alors qu'est-ce que vous avez cherché à lui apporter, ou qu'est-ce que Daniel finalement vous a conseillé d'apporter?
L'humanité. L'humanité du monstre. Comme disait Laïla tout à l'heure, c'est la clé, en tout cas moi, du travail que j'ai essayé de faire. Il y a quelqu'un, il n'y a pas longtemps, parce qu'on l'a encore rejoué à Antibes il y a la semaine dernière.
Pour la troisième première.
Oui, pour la troisième première. il m'a dit, ça m'emmerde à la fin, je l'aime bien.
Il est touchant.
Ouais, dans sa monstruosité, dans sa méchanceté, dans Moi, mon travail, ça a été de rendre ce sentiment ambigu vis-à-vis d'Harpagon. Il est violent, il est terriblement... Il veut tuer son fils, hein. Il veut mettre sa fille dans un couvent. L'autre, il veut le rouer tout vif. Rouer tout vif, à l'époque, ça veut dire tu prends une barre de fer et tu tapes jusqu'à qu'on arrive aux os. Donc c'est d'une violence extrême. Et en même temps, il me fait de la peine. Et en même temps, ouais, j'ai un sentiment... C'est bizarre ce que je ressens vis-à-vis de cet homme.
Et tout ça, on parle beaucoup du fond, du sujet de la pièce et de son écriture. Il faut aussi saluer la mise en scène, le jeu. Vous êtes une douzaine d'acteurs sur scène.
Il y a Antonin Chalon, il y a Mélissa Pratt, il y a Sophie Gourdin,
mais Mathieu Métral, Fanny Valette, Paul Chariras, Fabien Houssaï, Julien Nakache, mais surtout une mise en scène et un décor incroyable parce que il est à la fois moderne et avec ses grandes portes où on a le sentiment d'être dans un film de Kubrick. Tout est disproportionné, tout est immense.
Oui, ce petit bonhomme perdu dans cet endroit en ruine.
Qui s'est fait sa petite verrière avec sa cheminée pour bien lui être chaud pendant que tout le monde se caille dans le reste de la maison.
C'est terrible. Hein,
la mise en scène est drôle, elle est vive, elle est rythmée. Il y a beaucoup évidemment d'entrées, de sorties, de portes qui claquent et de mouvements, mais ça donne beaucoup de dynamisme et de modernité.
Moi, je me rends pas compte. Vous savez, c'est fou parce que quand on me dit que c'est très moderne, je me rends même pas compte.
Si.
Non, mais je suis tellement dedans.
Ça l'est déjà. Ouais. C'est la prose, le jeu, le modernisme. Oui, voilà. Et puis en plus le décor,
le décor est incroyable.
Les effets spéciaux, les projections, les entrées et sorties, tout ça, c'est vraiment une réussite. Et les costumes de Véronique, qui est la douce et tendre épouse.
Nathalie, pardon.
Véronique, c'est sa maîtresse, pardon. qui est la douce et tendre épouse. Je te laisse avec ça, tu te débrouilles maintenant.
Oui,
tu
merci
l'appelles.
Beaucoup.
On est ravis d'accueillir Michel Boujna. Pas tout le monde, puisqu'il y a Morgane Cadignan et elle vous aime pas. On est à ça de la haine.
Michel Boujna, je vous aime pas. Enfin, en vrai, je peux pas blairer Molière, mais comme il vient que dans une demi-heure, c'est vous qui allez prendre. Parce que je crois que de tous les péchés capitaux, l'avarice, c'est le pire. Parce que croyez-moi bien que si j'avais l'occasion d'être confronté à un tout petit peu de luxure, eh ben, je dirais pas nine. Bon, la gourmandise, quiconque m'a vu en Paris.
De luxe ou de luxure?
De luxure. Voilà, c'était la blague. Bon, la gourmandise, quiconque m'a déjà croisé en Paréo, c'est que c'est pas trop mon problème. Donc là-dessus, je suis tolérante avec les autres. La paresse, si vous m'avez croisé en Paréo, c'était sûrement aux Antilles. Donc encore une fois, tolérance. La colère, j'essaye de faire attention, mais je vis à Paris et sous le gouvernement Castex. Donc l'urgence pour moi, c'est un vaccin contre le seum. Et là, on est à une dose par heure. Franchement, si vous le trouvez, piquez-moi les deux bras une fois par jour. Il nous reste l'orgueil et l'envie. L'orgueil, je fais du stand-up et je vis à Paris. Donc en fait, je suis l'orgueil. Et le dernier, c'est l'envie, honnêtement, qui n'a jamais été un peu envieuse de son voisin. Calmez-vous, Michel, pas son voisin direct, mais envieuse d'autrui, c'est normal, c'est même un moteur. Florence Mendes, par exemple, elle a deux trucs énormes que moi j'ai pas, qui sont bien sûr, sa nationalité belge, et deux, son calme face aux beaufs de YouTube qui pensaient que cette blague parlait de ses seins. Bon, eh bien, elle envie probablement un petit peu ma nationalité française. Non, non? Pas du tout? Non. Ouais, bon, calmez-vous, hein, pour des gens hyper fiers de Bruxelles, vous êtes quand même très très souvent fourrés à Paris, je trouve. Mais la vie, c'est des choix, sinon on se retrouve au milieu, et le milieu, bah, c'est de vivre à Lille, comme Jérémy Crédville. Bonsoir. Et Lille, c'est pas un pichet, mais c'est pas une capitale non plus. Beaucoup de jeux de mots, hein, voilà. On est là, on fait pas attention, on n'est pas vigilant, et sous nos yeux, chaque jour, des gens deviennent Stéphane de Groot, soyez vigilants. Donc, le grand péché, celui dont vous venez nous parler, Michel, c'est l'avarice, la crevardise, les gens qui à table sont toujours un peu soulagés quand tu dis non, mais t'inquiète, c'est pour moi. Ceux qui n'ont jamais de monnaie quand faut des espèces, mais qui n'ont jamais leur carte quand faut pas d'espèces. Ceux qui font même plus semblant de se ruer sur l'addition. Ceux qui masquent le montant de leur participation dans les cagnottes en ligne. On vous voit, les gars. Après, c'est normal de faire attention quand on est en difficulté financière. Mais pour les autres, quand vous voulez pas payer le quick, attention à bien faire descendre la manche sur la Rolex. Hein. Donc, comme disait mon arrière-grand-mère, ça ne sert à rien d'être la plus riche du cimetière. Ma tombe sera remplie d'amour et de fleurs, pas de billets. Et les fleurs, on les achète avec quoi, vieille conne? Ce genre de proverbe à la con, quoi. Ma tombe sera remplie d'amour. Bah, si les mecs ont bien fait leur taf, elle sera surtout remplie de toi, quoi. Mais c'était sa force. Ça, je vais aller en enfer. Mais c'était sa force.
Non, mais tu es déjà en enfer.
De pointer les travers des humains encore d'actualité dans toutes ces pièces. Rien qu'à cette table, on a au moins trois femmes savantes, un bourgeois gentilhomme, Jérémy Crédville, Michel Boujna, Ivo Rest, Don Juan et le cocu. Je voulais choisir qui fait qui.
Merci, je prends très mal le bourgeois gentilhomme. Merci.
Mais gentil.
crois pas, je te dis du tout.
J'ai pas lu.
Bah, Jourdain, ça.
On prend le cocu alors.
Ouais, moi, je connaissais un mec, il était tellement avare que. Il allait s'essuyer les pieds sur le paillasson du voisin.
Ah ouais.
Pour que son paillasson y reste.
Oui, j'avais compris pourquoi. Oui, merci.
Ah, et Morgane est bientôt. Oui, tu sortiras de l'enfer ce soir ou demain pour jouer à 3.
Exactement.
Hein, sur scène. Voilà.
Michel Bougenat interprète l'avare. Michel Bougenat est notre invité dans la bande originale. Je tenais aussi et encore à vous remercier d'être si nombreux à nous suivre et à nous écouter tous les jours sur Inter. On est numéro 1
La modestie, la modestie.
Bon, c'est 7 millions d'auditeurs, pas sur l'émission, hein, mais c'est 7 millions.
Il va quand même falloir que Europe 1 change de prénom. Parce que
ouais, c'est vrai.
Europe 9.
Michel Bougenat.
Faut dire que les chroniqueurs sont formidables.
Mais qu'il est bon.
Oh, ça, c'est
non,
gentil,
je suis hypocrite.
Il veut juste être bien traité jusqu'à la fin, c'est tout. Hein.
Oh.
L'avare, ça sera donc ce samedi soir. On parle beaucoup de Molière, on parle beaucoup également de son entrée au Panthéon. Est-ce que vous faites partie de ces personnes
évidemment. Évidemment.
Oui, Christophe Barbier.
Quand on pense que il y a beaucoup d'artistes qui ont été enterrés dans la fosse commune, ça serait formidable comme revanche sur l'histoire que Molière soit entre au Panthéon.
Ce n'est pas possible.
Pourquoi ?
Ce n'est pas possible.
On n'a pas son corps ?
Ce n'est pas possible.
Il n'y a plus de place.
Le conseiller mémoire du chef de l'État, Bruno Roger Petit, a expliqué que le Panthéon est un temple laïque, enfant de la patrie républicaine, elle-même engendrée par les Lumières. Donc, toutes les figures qui y sont honorées sont postérieures aux Lumières et à la Révolution.
Ah.
Donc, ce n'est pas possible.
C'est une raison de merde.
Faudrait faire un Panthéon 2.
Ouais, mais excusez-moi. Je veux dire, Molière fait partie des gens qui ont vraisemblablement contribuer à la naissance de la pensée des Lumières.
Oui, enfin, c'est pas le seul, mais...
Sa critique de la religion, sa critique de la bourgeoisie, sa critique de tout.
Non, mais la règle, c'est la règle, Michel. On a dit qu'il y a une règle.
Si vous êtes dans votre voiture, klaxonnez pour Molière.
Mais les règles, parfois, c'est fait pour être transgressé.
Bien sûr, personne n'en met en question l'apport de Molière.
Non, mais je pense que c'est une réponse très malicieuse parce qu'ils ont trouvé une. Parce que j'ai jamais vu, moi, la règle de genre. Son nez au-delà de telle année pour.
C'est anticonstitutionnel.
Ouais, c'est ça, ouais.
Qu'est-ce que leur intérêt à s'opposer à l'entrée de Molière au Panthéon?
Je sais pas. Mais alors voilà. Il y a un moment, il n'y aura plus de place.
Il ne faut pas qu'il y ait un complot pour rien.
On a qu'à faire un Panthéon.
Un petit Panthéon.
Ouais, un Panthéon, un nouveau Panthéon. On met ce qu'on aime, nous.
Une avant-salle. toujours est-il que les 14 ans du baptême ou de la naissance, peu importe, de Molière, ce sera le 15 janvier. Là aussi, est-ce qu'il y aura quelque chose de particulier au théâtre samedi soir ou est-ce que vous allez l'interpréter? Parce que cette date n'est quand même...
fait en anglais
n'est quand même pas...
Ben écoutez,
le
pari, c'est d'arriver enfin à chaque fois, à chaque représentation, d'arriver à faire ce spectacle qui est extrêmement fort, compliqué. C'est
un pari physique aussi.
Hein, physique. Physique.
Tu as dit physique.
J'ai dit physique. Il est fou celui-là, quel physique. Je sors de là, je me traîne pendant. Il me faut 10 minutes pour sortir du truc. Non, c'est très violent. Mais c'est très fort, c'est très bouleversant. Enfin, vraiment, c'est. Moi, je suis. À chaque fois que je joue cette pièce, je suis bouleversé. C'est pour ça que j'ai beaucoup. J'ai changé, bouleversé ma vie et tout ça pour pouvoir le reprendre. Parce que, évidemment, ça a été très compliqué de pouvoir le reprendre.
Et il fallait le jouer sans, pardon, faire du Bougenat. C'est-à-dire, il fallait pas être cabot.
C'est pas très compliqué. Si vous jouez le texte et si vous êtes au service du texte, tout ce que vous êtes qui pourrait gêner tout ça disparaît. C'est très étrange. Même mon accent disparaît. Parce que la langue vous emmène autre part. C'est tellement fort. Maintenant, si vous luttez contre le texte, si vous essayez de vous l'approprier et d'en faire une arme pour vous, alors là, vous êtes mort. Parce que Molière ne le pardonne pas. Mais si vous l'aimez et si vous le servez, alors là, il vous donne des ailes. C'est vraiment magique.
Vous êtes totalement laissé porter par Daniel Benoît, ou vous avez proposé aussi, parce que par exemple, quand il y a cette espèce de pas de danse, je sais pas comment le qualifier, mais quand on
pas de bourré.
Comment marcher et que vous vous retrouvez seul sur scène et que vous le faites à nouveau, ça fait pas partie des didascalies de Molière, ça, c'est une proposition.
Non, bien sûr, mais il y a plein de choses qui sont des propositions de mise en scène
de Daniel.
Et de Daniel. Moi, je me suis laissé complètement porter. Vous savez que c'est très étonnant. en principe, mon métier, c'est de faire rire, ok, dans mes propres textes.
C'est le point de départ, oui.
Eh ben, il y a des choses qui me demandaient de faire. Je dis, mais ça, ça fera jamais rire personne. Et ça fait rire.
Comme quoi ?
Et ça fait rire, c'est incroyable. Et chaque fois, je dis après la représentation, je dis, mon Dieu, tu as raison. Il me dit, c'est pas moi qui ai raison, c'est Molière.
C'est un manque de confiance en vous. C'était.
Ben, c'est un univers qui est très. Au fond, c'est une manière. C'est très éloigné de ce que je suis. Alors évidemment, il y a des moments de, et curieusement, quand elle lui dit, vous êtes beau. C'est comme ça qu'il faut être pour plaire aux femmes. Elle, quand elle le dit.
On n'y croit pas deux secondes quand c'est vous.
Mais bien sûr, oui, je le sais, surtout en avant. Mais elle, quand elle le dit, les gens rient. On aurait pu rajouter derrière encore un rire avec la réaction d'Harpagon.
Oui.
Et ben, au contraire.
Une grimace supplémentaire ou.
Au contraire. Ouais. Il dit, avec beaucoup de sincérité, il dit, tu me trouves bien.
Ouais.
Et c'est complètement touchant. Et ça, c'est la vision aussi de Daniel qui est vraiment, pour moi, un grand. Avec Bouquet, avec Catherine Yégel, qui m'a dit des choses formidables sur l'Avare quand elle avait vu la deuxième partie, parce qu'elle jouait, il se trouvait intime en même temps que moi. Et puis, j'ai des partenaires formidables. Antonin Chalon, je sais que ça l'embête, mais c'est le fils de Zabou. Mais c'est aussi important.
Enfin, ça parce... l'embête.
Non, mais. C'est parce que c'est bien. C'est formidable, les de père en fils. Vous voyez, ou de mère
bien
en
sûr,
fils.
Bien sûr.
Et,
c'est touchant.
C'est un comédien formidable. C'est un bonheur.
Être 12 sur scène dans ses chorégraphies, dans ses rythmes, ses entrées et ses sorties aussi, ça demande beaucoup plus de travail que n'importe quelle pièce. C'est-à-dire que je dis pas que c'est du fédo, mais d'un coup j'ai pensé à ses entrées, ses sorties, ses portes qui claquent aussi.
C'est une comédie.
Ouais, c'est ça. On est au fil à la patte aussi. Ouais,
et pour moi, vous rendez compte le bonheur que
tout
c'est
est dans
de,
le tempo.
De pas être tout seul, de partager avec les autres, d'avoir des comédiens et des comédiennes avec qui jouer la comédie. Ça, non pas que seul je suis malheureux, mais c'est des vacances studieuses formidables.
Mais fatigantes, c'est vrai. Et c'est vrai que quand vous saluez comme ça, quand vous vous penchez en avant, on a l'impression que vous tombez. Quoi. C'est
ah
ça
mais
que...
je suis mort. Non, sans déconner, je suis mort, hein, je ne fais pas exprès. Hein. Il me faut 5, 6, 10 minutes pour me récupérer.
Jouer Molière et mourir sur scène.
Non, je ne veux pas.
Mais d'ailleurs, il n'est pas mort sur scène. On parlera de
Molière.
Oui,
c'est vrai.
Donc,
il est mort chez lui.
Il n'était pas en forme, c'est tout.
Avec quel loser.
Georges Forestier. Qui est prof de littérature à l'université à la Sorbonne et auteur de la bio, une des bios sur Molière aux éditions Gallimard. Mais d'abord, voici Jérémy Crédit.
Ah oui,
Non, c'est Florence. Bah non, c'est pas toi.
C'est Florence, c'est moi.
Mais ouais, mais non, et voici Florence Mendes. Ouais,
allez.
On s'y méprend.
Bonjour à tous. Leïla, vous êtes resplendissante. Nagui, vous êtes là. Je suis tombée sur cet article. La fécondité des Françaises de plus de 40 ans est en hausse depuis 1980.
Allez, voilà.
Et à quelques jours de mes 35 ans, ça m'a rappelé un truc. Je veux vraiment plus avoir d'enfants. J'aurais plus la patience pour un petit enfant. Par exemple, en voiture, ils arrêtent pas de te parler alors que putain, ils voient bien que t'es sur ton téléphone. De toute façon, parler avec un enfant, c'est juste crever de vieillesse en attendant qu'il termine la phrase qu'il a commencé par « en fait ». Les devoirs, bonjour l'enfer, hein. La dernière fois mon fils en a eu un sur les objets pour mesurer le temps. C'était des petites devinettes pour savoir quelle heure il est, j'utilise l'horloge pour savoir en combien de temps je cours le 100 mètres, j'utilise « oh putain on s'en fout, vas-y mets mon smartphone partout » et puis voilà. Heureusement, depuis ce 1er janvier, la contraception en France est gratuite pour les femmes jusqu'à 25 ans. Passé cet âge, c'est la règle des 3 P, procréer, payer, ou pomper. Très de plaisanterie. C'est un sujet important. Le 26 septembre est d'ailleurs la journée mondiale de la contraception. La bonne nouvelle, c'est que si vous avez raté le coche, deux jours après, le 28 septembre, c'est la journée mondiale de l'avortement. Sinon, le 25 juillet, c'est la journée mondiale de la noyade, mais ça, c'est quand même un peu extrême.
Ouais.
Mais bon, Moi j'avoue, la pilule ça fait 20 ans que je la prends et j'espère quand même que mon prochain mec il se chargera de la contraception. Alors c'est pas gagné déjà quand tu vois la mauvaise volonté des mecs face à un préservatif. Hein. Pourtant ça permet quand même d'éviter bien des désagréments, bah, comme l'enfant justement ou la chlamydia. Alors moi j'ai eu les deux et heureusement, la chlamydia ça parle pas. Ou alors vraiment, c'est que t'as laissé traîner. Le type, quand tu lui demandes de mettre une capote, il te répond non mais je sens rien. Eh ben super, ça nous fait un point commun. Et pour donner envie à ces messieurs, il a fallu rendre ça ludique, hein. Il faut des jolies couleurs, des messages rigolos sur l'emballage. Nous les meufs, on n'a pas de stérilet Hello Kitty, d'accord ? Bon. Bonjour l'immaturité, si les mecs devaient prendre la pilule, chaque mois il leur faudrait un calendrier de l'avant, tu sais, oh une pilule, oh encore une pilule. Mais la pilule pour hommes, elle n'est pas prête d'être commercialisée, les industries pharmaceutiques investissent en effet très peu dans ce genre
elle
de recherche.
Ouais, c'est ça.
Alors bon, ça intéresse cependant de plus en plus de scientifiques qui étudient les propriétés des différentes molécules qui permettraient ou de bloquer la production de spermatozoïdes ou de paralyser leur transport. En fait, ce qu'il leur faut, c'est Anne Hidalgo. La contraception hormonale, elle existe pour les hommes sous forme d'injection intramusculaire, mais elle rencontre peu d'adeptes. Et pourquoi Morgane ? Et pourquoi Leïla ?
Je sais pas.
Parce qu'il y a trop d'effets secondaires. Piu-piu. Alors, il y a la méthode thermique, hein, dont on commence à entendre pas mal parler, mais le plus simple, si vous ne voulez pas ou plus d'enfants, c'est la vasectomie. Cette opération qui consiste à couper et bloquer les canaux qui transportent les spermatozoïdes à partir des testicules ou, comme le chantait Jérémy, le tuyau des boules. Elle s'effectue...
C'était quelle année ?
Elle s'effectue en 10 minutes et sous anesthésie locale. Voilà, 10 minutes et sous anesthésie locale, on dirait mon dernier rapport sexuel. C'est pour beaucoup de mecs difficile à accepter. Chez l'homme, la fertilité est associée à la virilité. Alors, moi, j'ai eu un de mes ex, c'était infertile, on a essayé de concevoir. Et même si la mauvaise qualité de son sperme était avérée, c'est moi qu'on culpabilisait. On me disait, oui, mais tu verras, tu tomberas enceinte quand tu arrêteras d'y penser. Mais oui, mais bien sûr, parce que les spermatozoïdes, c'est comme les fantômes dans Mario Bros. Quand tu les regardes pas, ils recommencent à bouger. Voilà. Allez, messieurs, je compte sur vous pour mettre vos couilles sur la table d'opération. À la semaine prochaine.
Merci, Florence.
Et Florence, on se retrouve tous les jeudis au Métropole, ce soir d'ailleurs.
Et il reste des places.
Samedi, au Théâtre des Variétés, c'est L'Avare de Molière, interprété par Michel Boujna, mise en scène par Daniel Benoît. 12 artistes sur scène pour cette pièce, avec ce décor imposant, gigantesque, extrêmement moderne, pour une pièce extrêmement moderne signée Molière. On va en parler et on continue d'en parler jusqu'à midi et demi, notamment avec Georges Forestier. Mais d'abord, la bande originale de Michel Boujna, et ça me fait d'autant plus plaisir de faire cette bande originale avec Michel Boujna que, je ne sais pas si vous le savez, Michel, vous avez été l'un des premiers invités d'une émission il y a longtemps de télévision, qui était un documentaire qui s'appelait La bande originale de ma vie. Et vous aviez accepté de faire ce documentaire que je produisait et qui a donné le sens aussi à cette rubrique. Et déjà à l'époque, vous m'aviez parlé de Bob Dylan.
Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy and there is no place I'm going to.
On est en 67 avec Bob Dylan, ça faisait partie des disques qu'on écoutait à la maison ?
Ah ouais, non seulement des disques, mais j'avais un copain qui évidemment jouait de la guitare et... Et ça faisait partie des chansons obligatoires quand on était tous ensemble, qu'on se réunissait.
Autour de la guitare. Et vous chantiez avec lui ?
Oui, mal, mais j'adorais écouter les autres parce que moi je chante très très mal, hélas. D'ailleurs, si je peux me permettre, je suis très jaloux
de qui ?
De Nagui, qui a vécu un moment incroyable dans Taratata que je revois régulièrement.
Avec Alicia Keys ?
Oui.
Oh là là, mais moi aussi.
Mais on est d'accord.
Bien sûr.
C'est fou. Comment vous savez ça ?
Mais parce que moi aussi, je le vois. C'est
hyper connu.
Mais bien sûr.
Quand elle lui demande un verre d'eau. Mais moi, j'aurais amené une citerne.
Ouais.
Je me serais traîné à ses pieds. C'est un moment. Voilà, excusez-moi, j'ai fait la
parenthèse. Mais
parenthèse.
Non, mais si, mais parlons-en. Mais moi aussi.
Non, non, non. Allez, revenons à 67.
Alicia Keys qui est là, derrière son piano, qui est d'une beauté ensorcelante, qui a une voix incroyable, qui est juste l'artiste qu'on rêve d'être, en fait.
Ah oui, c'est incroyable, c'est incroyable.
Vous l'avez demandé, on va l'écouter tout à l'heure, Alicia Keys, si on a le temps.
Avec plaisir, oui, si on se dépêche.
Alors, on est en 67, on va se dépêcher, Michel.
Allez-y, je vais être très rapide.
67, vous avez 15 ans, vous entrez à l'école alsacienne, à Paris.
Oui. C'était super, allez.
École alsacienne, voilà, juste pour resituer un petit peu, pour ceux qui ne connaissent pas l'école alsacienne, c'est une école
très sérieux.
Privée.
C'est une école privée pilote.
Pilote, avec des pédagogies un peu nouvelles.
À l'époque, oui,
à l'époque, très moderne. De moins en moins nouvelles peut-être,
oui.
Qui réunit quand même une population particulière. Ce sont des enfants d'acteurs, des enfants de politique, des enfants...
C'est un mélange de plein de milieux sociaux différents, puisque moi quand j'arrive là, je viens de Bagneux...
Mais vous n'y arrivez pas complètement par hasard, parce qu'aujourd'hui...
Mais mon père soigne la sœur du proviseur par hasard, ouais. Et je passe un examen pour y rentrer. Hein.
Bien sûr, il y a un examen, effet, mais c'est quand même...
Mais ça a changé ma vie, c'est sûr.
Pourquoi ça a changé votre vie ?
Parce qu'il y avait un prof, de français qui adorait le théâtre et qui nous faisait faire du théâtre. Et moi, je fais un exposé sur le dernier des Justes en classe. Ça, c'était dans le programme d'André Schwarzbach. Et il y a des gars de la classe qui me disent « Putain, tu racontes bien les histoires, pourquoi tu viens pas faire du théâtre avec nous ?» Et le premier spectacle que je joue, ça s'appelle « Montserrat d'Emmanuel Robles », je joue un soldat, je passe 59 heures à savoir comment on porte un fusil. Je fais des gravures, des machins, je fais que ça. Hein. Moi, mon seul truc, c'est porter le fusil et faire « c'est tout.
Mais vous étiez brillant, Michel, vous étiez brillant.
Et non, il fait rire tout le monde.
Et j'étais sûr d'avoir bien fait. Et mon père qui voit le spectacle, il me fait « Pourquoi tu portes le fusil comme une canne à pêche ?»
Mais là, vous découvrez que vous faites rire malgré vous, ou comment
au début, je
vous ressentez sur scène.
Au début, je fais rire parce que dans les booms, on arrête la musique et on me demande de raconter des histoires drôles. Oh. J'ai toujours adoré raconter des histoires drôles depuis tout petit. Mais je le fais à mes dépens, ça. Parce que je suis dans un milieu qui est pas du tout mon milieu d'origine culturelle et tout ça, et ça amuse tout le monde un peu de voir le petit juif tunisien avec son accent qui raconte des histoires avec l'accent arabe, l'accent juif.
Avec le cheveu sur la langue aussi.
Se parle comme ça. Pas évident.
On est entre la moquerie et l'humour, quoi.
Exactement.
D'accord.
Jusqu'au jour où j'ai découvert que ça pouvait être mon drapeau. Jusqu'au jour où j'ai découvert que c'est ça qui pouvait sauver ma vie.
C'est ce qui plaisait aux filles.
Non, vous savez ce qui plaisait aux filles, c'est le.
C'était moi.
Je faisais croire.
J'aimerais bien savoir ce qui plaît aux filles.
Oui, ça serait bien. Enfin,
ouais,
pour
ouais,
vous.
Bah oui.
Je leur faisais croire que j'étais un amant extraordinaire et que je savais faire l'amour et que je.
Mais à quel âge vous faisiez croire ça?
Mais j'avais
42 ans.
42 ans. Truc gênant.
J'avais 16 ans, mais en fait, je savais rien, je connaissais rien. J'étais puceau complètement. Mais non, j'avais pas beaucoup de succès. Bah, les filles, vous rigolez. Elles se cassaient toujours avec les autres. Vous rigolez ou quoi?
Avec celui qui chantait Bob Dylan.
Ou celui qui avait une moto qui était genre une vraie moto, alors que moi j'avais une mobilette de merde.
En 72, vous écoutiez Crosby, Stills, Nash & Young.
Ça, c'est. Vous savez ce que c'est, ça? C'est le stop Paris. La montagne suisse en stop, les pétards, je dois le dire, les pétards.
Les pétards qui font en pète ou les pétards qui...
Non, les pétards qui
après, font rire.
T'as très faim, t'as envie de manger des épinards à 4 heures du matin. T'as
des épinards, j'ai l'impression que c'est des McDo maintenant.
Et que moi, personne ne voulait que je fume des pétards parce que je riyais pendant à peu près 19h sur 24 et qu'ils me disaient tous « Mais tu vas la fermer ta gueule !»
Ça me fait le même effet.
Vous fumiez des pétards parce qu'il fallait faire comme les autres et faire partie de la bande?
Non, parce qu'il avait envie de se défoncer la gueule.
Beaucoup plus grave. Hein. Il y avait ceux qui prenaient du LSD, moi j'en ai jamais pris, et j'étais celui qui surveillait ceux qui prenaient du LSD, parce qu'il y en avait quand même un ou deux qui disaient « Ah, j'ai des poils sous la peau, il faut donner moi un couteau, je vais les enlever. »
Oui, mais pardon, quand on est comme ça, ado, et que l'on passe des soirées, il y a toujours la tentation, évidemment, du bon pote qui va dire « Allez, vas-y, essaye. » Qu'est-ce qui fait que vous n'y êtes pas allé?
Je pense mon éducation, mon père médecin... des tas de choses. Et puis je savais déjà, en ayant fumé des pétards, dans quel état j'étais. Je me disais, si je prends un LSD, ils vont m'abattre.
Et cette époque-là, 72, c'est la grande cuillère, cette troupe théâtrale.
Ah bah, c'est bien après le.
Que vous montez, qui se produit en banlieue pour les enfants, pour les ados. C'est le théâtre partout, avec tout le monde.
Oui. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à travailler avec des enfants. Et j'ai développé ça pendant 9 ans.
Vous donnez des cours dans des lycées, ouais, des cours
avec des enfants dans des classes d'adaptation, avec des enfants qui étaient considérés comme un peu cinglés, alors que moi je les trouvais en pleine forme et je pensais que c'était les parents qu'il fallait buter. Et un jour il y a un psychiatre qui m'a dit, vous savez qu'on est en France, on n'a pas le droit de tuer les gens. Alors si vous voulez tuer des parents, on va en choisir deux, mais que deux, c'est tout. Et tellement, moi, je trouvais que les parents étaient... Moi, j'ai vécu un truc incroyable. Il y a un gosse, il s'est tiré une balle dans le cœur. D'accord ? Son père avait un revolver posé, chargé sur son bureau. Le gosse, il a pris le revolver, il s'est tiré, il s'est loupé à un millimètre. À l'hôpital, on arrive pour le voir. Jamais j'oublierai ça. De toute ma vie. Et on lui dit, pourquoi tu souris ? Il dit, parce que j'ai fait une grande découverte.
L'enfant ?
Ouais, il a 12 ans. Parce que j'ai découvert que ma vie m'appartenait puisque je suis capable de la supprimer. Et il était sauvé.
À 12 ans, ouais.
Il était sauvé parce qu'il avait compris que c'était sa vie et qu'il en était propriétaire.
La phrase est dingue, ouais.
Ouais.
Enfin, c'était... Le premier qui est dingue, c'est le père de laisser traîner une arme chargée.
Exactement, c'est pour ça que je dis que c'était souvent les parents qui étaient responsables. Ce que j'ai vécu avec ces enfants, ça m'a amené, moi, à faire mes spectacles tout seul. C'est eux qui m'ont appris, c'est eux qui m'ont guidé. Quand j'ai commencé à bosser avec eux, j'avais 20 ans. C'est rien.
En 93, vous écoutiez...
Francis Cabrel. Très peu connu, c'est
hyper l'accent, hein.
Francis Mohamed Cabrel.
Francis Kabil.
Allez.
Que se passe-t-il ?
Je chante faux,
mais
la seule musique que je chante juste, c'est la musique de mon enfance. C'est fou, hein.
Ou alors personne n'ose vous dire que c'est fou quand vous chantez en arabe.
Et Ahamouda, et Ahamouda.
Oui, personne n'ose vous le dire.
Quel enfoiré. Vous voyez, évidemment, quand on a fréquenté Alicia Keys, on devient snob.
Alors, vous savez, il l'était déjà avant.
Ah merde.
Demandez un verre d'eau.
On vous retrouve en 93, Michel, dans le nombril du monde d'Ariel Zetoun. Tournage éprouvant.
Comme souvent avec 100, Ariel, oui.
110 jours de tournage. Wow. 110 jours de tournage.
Énorme.
Énorme, oui, j'ai pris 25
c'est
kilos.
C'est ça, 25 kilos, c'est ça, je voulais pas en arriver directement au poids, mais...
Énorme, un rôle magnifique, j'ai eu beaucoup de chance.
Facile de les prendre, difficile de les reperdre, ou un dans
enfer.
Les deux sens
ouais. Facile de les prendre, et très compliqué de pas les perdre pendant le tournage. Donc on me donnait le matin des bouteilles de...
Du loukoum.
De sucre.
Mais j'ai mangé ce qui était formidable, c'est que je mangeais de l'huile d'olive avec du pain tous les matins, c'était bon avec de la harissa. Le seul problème, c'est la canette pour anorexique.
C'est quoi ça ?
C'est des canettes qu'on te donne, que tu peux boire, qui te font grossir. Mais c'était heureusement qu'aujourd'hui, les acteurs qui font ça, il y a des effets spéciaux qui permettent de grossir sans manger. Donc, mais moi, j'ai dégusté. Hein. J'ai dégusté. Je peux vous dire. Mais je regrette pas.
Vous avez mangé le plat que fait la dame dans l'émission où vous avez un fou rire là, parce que ça baigne dans l'huile. Ah, ouais. C'était trop bien cette scène.
Non, mais c'est vrai que c'est un fourri. Rôle. Je souhaite à tous les acteurs du monde
un rôle
de
marquant,
tomber
oui.
sur un rôle comme ça.
Ouais, vous dites même que le César que vous avez eu pour le coup fin, par rapport à la performance que vous livrez là, forcément.
Ben j'étais nommé au César. Du meilleur acteur pour le nombril, c'est Pierre Arditi qui l'a eu justement, et c'était tout à fait mérité pour Smoking the Smoking dans la Rennais. Mais
on en fait beaucoup autour de Pierre Arditi, il faut se calmer quand même.
Hein. Non, je l'adore.
Un comédien dingue. Quand même.
Mais c'est vrai que le Couffin, le César que j'ai eu pour le Couffin, il aurait été plus juste de le donner aux trois acteurs en même temps.
Oui.
Ce qui a été fait après d'ailleurs. Mais à l'époque, ça n'existait pas. On ne partageait pas les Césars. Et c'est dommage parce que et André et Roland, que j'embrasse très fort, le méritaient autant que moi. Enfin, bon.
Enfin, on arrive en 2008.
Ah, voilà.
C'était ce jour-là.
Ouais, ouais.
Ça, c'est la version de Taratata.
C'est magnifique.
Déjà, moi, je salue le son pris par Patrice Kramer. Et ça file la chair de poule, de toute façon, de l'écouter. Voilà. 2008, Leïla.
Oh, j'ai pas envie de parler, là. Oh. 2008, Michel. Enfin libre. C'est votre one man show.
Oui. Bah, c'était un moment où... j'avais envie de tout mélanger, j'avais envie d'aller dans tous les sens.
De vous libérer peut-être d'une image qu'on avait de vous, non, aussi ?
Absolument, absolument. Puis moi, j'ai du mal, moi, avec le stand-up, c'est pas mon truc, techniquement. Mais ça m'amusait aussi de...
Vous avez préféré jouer des personnages et des scénettes, raconter des histoires
que de faire... C'est beaucoup plus théâtralisé que le stand-up, ce que je fais. Mais c'est aussi, je pense, une question de génération. Mais c'était un moment... Ouais, j'adore. J'adore. De toute façon, jouer seul, c'est un bonheur. J'adore tout, moi. J'adore manger, j'adore m'envoyer en l'air, j'adore tout.
Et il adore.
Oh ouais, encore.
Imaginez manger avec elle.
Moi, tout, avec elle, tout. C'est fou. Vous savez ce que ça me rappelle? Ça me rappelle un moment magnifique en pleine mer où je croise Mathieu Chédid.
Il nageait.
Il faisait la brasse tous les deux.
Avec un dauphin.
Qui était en train de se noyer.
Je suis nord. Ça m'en fait. J'étais en pleine mer. Il était en train de se noyer. Et à ce moment-là, il fait.
Il y a Ali Chakis qui arrive, qui le sauve.
Et il était monté sur le bateau. On avait passé un moment formidable à... Il c'était super. Il se trouvait que dans mon bateau, il y avait une guitare. Ce qui est heureusement. Mais je pense à ces moments magiques. Bateaux,
c'est fou.
Bon bateau a toujours une guitare à bord. Des fois qu'on ramasse un Mathieu Chédid abandonné.
Un piano, c'est plus compliqué.
C'est
parce que ce moment-là que vous avez vécu, qu'on a vécu avec vous, enfin avec toi, avec nous, avec il, c'est tellement fort. Moi, depuis, vous savez que j'ai toutes les chansons de cette femme.
Bah vous faites du bien, vous faites bien de le faire, parce qu'elle est, elle est bien.
Tout.
Elle est bien.
J'attends qu'elle arrive.
Et pour l'anecdote, ça fait partie des rares stars américaines. Il y en a plusieurs quand même. On va pas non plus balancer des bêtises sur toutes les stars américaines, mais qui, on a l'impression que les stars américaines viennent, chantent et repartent dans leur loge entourées d'une cour et ainsi de suite. Elle est restée sur le plateau pour écouter les autres chanteurs français qui venaient dans Taratata chanter leurs titres. Ça m'avait marqué parce qu'elle était, et puis en plus elle est revenue plusieurs fois dans Taratata et elle est revenue et maintenant elle est totalement contre le maquillage et elle a chanté.
Me dites quand elle revient.
Sans, promis.
Moi j'amène le verre d'eau.
Je vous promets, elle vient sans maquillage et passer à la télé sans maquillage, c'est-à-dire qu'avec les projecteurs à fond, il n'y a pas de poudre, il n'y a rien du tout, puisqu'elle est totalement contre le...
Ça fait des années qu'elle est passée au no-make-up.
Ouais, l'utilisation des animaux dans les tests chimiques des laboratoires et autres.
Et plus globalement, de l'image retouchée que le maquillage peut apporter.
Elle fait partie de ce mouvement-là.
Elle a bien raison.
Georges Forestier, merci de venir. Georges Forestier, vous êtes professeur de littérature à la Sorbonne, auteur d'une biographie de Molière aux éditions Gallimard. Vous avez travaillé sur la plateforme Molière2022.org. Je précisais donc que le 15 janvier, c'était pas vraiment son anniversaire, mais plutôt la fête de son baptême, c'est ça? Parce qu'on ne sait pas quand il est né.
Il n'y avait pas l'état civil à l'époque. Donc l'état civil, c'est le registre de baptême.
C'est ça.
Donc, et comme les gens mouraient très vite après la naissance, on baptisait tout de suite. Donc il y a de fortes chances qu'il soit né le 15 janvier.
Qu'est-ce qui est prévu? Comment, au-delà de l'interprétation de l'Avare au Théâtre des Variétés ce 15 janvier, comment on va fêter ce 400e anniversaire en France?
Vu tout ce que tout le monde me demande, ça part dans tous les sens. Il y a des créations partout et on sait que la Comédie Française va enchaîner pendant 6 mois que du Molière, ce qui est assez exceptionnel de ne revenir que là-dessus. Il y a des colloques partout à travers le monde, en Europe, aux États-Unis. Voilà, c'est notre héros national, Molière.
Justement, on évoquait le Panthéon tout à l'heure, la réponse faite par l'un des conseillers du président en disant non, si ça s'est passé avant la Révolution, si la mort a eu lieu avant la Révolution, pas de place au Panthéon.
Moi, ça fait 2 ans qu'on me pose la question, depuis que Francis Huster a lancé sa pétition.
En disant, j'arrête de jouer si Molière ne va pas...
Oui, mais franchement, Molière, il a une maison. C'est l'auteur français le plus joué dans le monde.
Clairement.
On le joue partout. Je disais, il a une maison, c'est la Comédie Française, entre guillemets. On parle que de lui. Pour moi, le Panthéon, c'est la patrie reconnaissante aux ceux qu'on va oublier s'ils n'étaient pas au Panthéon. Mmh. Molière, il n'y a aucune chance pour qu'on l'oublie. Donc, on peut le mettre au Panthéon si on veut, mais... Ça lui apportera rien.
D'accord. On parlait de modernité tout à l'heure. Leïla avait employé ce terme sur l'écriture de Molière. En quoi est-il si moderne?
Il est moderne parce que on parlait de stand-up.
Ouais.
Tout simplement parce que il est celui qui a fait entrer dans la comédie le monde contemporain. C'est-à-dire qu'il a eu l'idée, avec Les Précieuses Ridicules, c'est sa première pièce qui joue là-dessus, de prendre les gens dans les salons, avec des caricatures burlesques, mais de faire entrer le monde contemporain, les discussions, les sujets contemporains, se moquer des comportements comme font les auteurs de stand-up, sujet et des valeurs.
Sujet contemporain et sujet intemporel. Quand, encore une fois, on se dit, ça n'a pas pris.
Quand vous vous moquez des snobs, de ceux qui veulent vous convertir à tout prix, des pédants... des avares, mais ça c'était conjoncturel en fait. Mais quand vous vous moquez de tous ces gens-là, nécessairement vous touchez à des passions humaines, à des comportements humains éternels.
C'est donc, une spécificité française, mais jouer beaucoup à l'étranger ou uniquement en France?
Mais dès son vivant, il a été traduit dès son vivant à l'étranger. En 1670, Henriette d'Angleterre, la fameuse Madame, est invitée par son frère le roi pour signer un traité de paix de Louis XIV. Elle arrive, qu'est-ce qu'on joue pour l'honorer? Un pot-pourri des œuvres de Molière en anglais. On est en 1670, Molière mourra en 73, voyez déjà...
En faisant l'effort de le traduire pour elle.
Non, c'est parce qu'il était déjà traduit, qu'on le jouait, on le jouait en Angleterre à ce moment-là.
Et dites-moi, j'ai juste une question à vous poser.
Allez-y.
Sa relation amoureuse avec Armande, la fille de sa femme.
Non, la fille de celle avec qui, laquelle, qui a été sa maîtresse pendant quelques années, 20 ans plus tôt.
Oui, Madeleine.
Je veux dire, c'est...
Qui a joué d'ailleurs dans l'Avare aussi.
Qui a joué dans l'Avare, et aussi qui était presque son assistante dans son écriture.
C'est une question pour dire quoi. Est-ce que c'est une relation incestueuse?
Non, mais je veux dire, moi j'aimerais en savoir plus sur l'histoire entre Armande et Molière, voilà.
Bon, c'est très simple, Madeleine, elle a vécu quasiment maritalement pendant 5 ans avec un grand seigneur de la cour de Louis XIII. Bon. Elle a eu 2 enfants, une qui meurt tout de suite, qui est reconnue par le... et l'autre qui ne peut pas être reconnue, qui va grandir, elle va être baptisée à l'âge de 10 ans parce que le père ne pouvant pas la reconnaître, qu'est-ce qu'on va en faire de cette petite? Du coup, on va faire passer... Le grand-père et la grand-mère, le grand-père était mort depuis 1 an et demi à sa naissance, mais on va le faire passer pour le père et la mère. Et du coup, Madeleine devient officiellement la grande sœur de sa propre fille.
D'accord.
Voilà.
Molière et elle ont une vraie relation.
Avec Madeleine, il crée une troupe de théâtre qui s'appelle l'Illustre Théâtre.
Ouais. Non, mais Armande.
Armande. Et comme, attendez, il y a juste une chose à comprendre.
J'ai posé une question catastrophique.
Non, mais ça va longue surtout.
Ouais, elle est très longue.
Je vais très vite. Comme elle a eu cet enfant avec un grand seigneur, elle veut pas qu'elle devienne une enfant de la balle. Elle le fait éduquer loin du théâtre, dans une institution religieuse. Et quand elle en sort, découverte avec Molière, elle devient femme de Molière et actrice à ce moment-là.
Tu sais quoi, tu veux en savoir plus, Michel? Il a signé la biographie de Molière aux éditions Gallimard.
Je vais l'acheter. Non, mais il y a tellement de choses que j'aimerais savoir.
Merci Georges Forestier, merci beaucoup. Professeur, je le rappelle, à la Sorbonne Paris 4. Voici Jérémy Crédville.
Chaque mercredi, j'envoie ma chronique à JB, le rédacteur en chef de l'émission, pour qu'il me donne ses retours. Et hier, il m'a dit « Comment différencier ta chronique d'un papier normal cette fois ?» je la ferai debout. Voilà. Là, il m'a dit « Ouais, mais nous, on aime bien quand tu chantes, quand tu fais des imitations ou des bruits. » Il m'a pris pour une boîte à meules. Je vais te chanter le thème de la chronique, JB, à la manière de Camille.
« Ra, le... » Le bol, j'en ai ras le bol.
Voilà, le ras-le-bol, c'est le thème de la chronique. Je pense qu'on en est tous là aujourd'hui, on en a même plus que ras-le-bol. On est sorti du bol, on est des poissons, hors du bocal, à agoniser sur la table. Et le gouvernement, il est là avec un verre d'eau à nous dire « Je sais votre souffrance, mais est-ce que tu sais que tu nous casses les couilles ? Prends un gros rouleau et tape-toi le front avec. Ou mieux, tu prends ce rouleau, tu le déroules et tu verras qu'au bout, il y a des gens. » Plein de gens au bout du rouleau, comme par exemple Lara, préparatrice en pharmacie, qui a publié lundi sur Instagram son ras-le-bol. Bref, au protocole sanitaire qui change tout le temps. On a l'impression que le gouvernement prend le protocole sanitaire pour un petit vieux qui a la gastro. Faut tout le temps le changer. Non, c'est vrai. Même Arturo Brachetti a dit « Ma, j'ai mes changes moins vite que vos protocoles de merde !» Deux imitations pour JB. Oui. Cette préparatrice, elle a aussi fait part de sa fatigue face à des patients qui n'ont jamais aussi bien porté leur nom. Hein, parce que attendre 1 heure et demie devant la pharmacie pour qu'on nous dise au final
« Ah, on n'a plus d'autotest !»
Faut être patient. Non mais vous avez vu les queues devant les pharmacies? Et quand je dis que, je parle pas de ma bite, hein.
Oui, merci.
3 invitations quand j'y vais. Non, mais l'ambiance autour des officines, elle est tellement glauque.
Ah! Non! Arrêtez, non! Stop, s'il vous plaît! Non! Je veux pas! Ça, c'est
c'est ce que vous entendriez dans les pharmacies si les enfants avaient des voix d'adultes. Le personnel soignant se retrouve à devoir tester certains enfants qui hurlent et qui se débattent. Un test antigénique à un enfant, dans deux semaines, tu vois les images sur le site L214. C'est presque un viol. C'est juste que la narine n'est pas un orifice punissable par la loi. Il y a des parents qui arrivent quand même à tester leur enfant. Bon, les ceinturants, les tenants, etc. Moi, ma fille, je galère déjà à lui mettre son manteau, donc les autotests, je pense honnêtement, ce sera sans moi. Enfin, je veux dire, parce que face à ce problème des tests en pharmacie ou en labo, le gouvernement a fait ce qu'il sait faire de mieux, rétro-pédaler. Hein, au rythme où il a déjà fait 3 tours de France en arrière.
C'est vrai.
À la rentrée, s'il y avait un cas contact à l'école, il fallait faire un test réalisé par un professionnel de santé et 2 autotests réalisés à la maison avec attestation sur mon doigt d'honneur. Maintenant, 3 autotests suffisent. Hein. Enfin, 3 autotests, 3 attestations sur l'honneur suffisent. Parce que personne ne va faire subir ça à son gosse. Enfin, je pense pas. À la rigueur, ce sera une nouvelle punition. Tu vois. Un écouvillon qui te cure ton âme pendant au moins 5 secondes par narine. 5 secondes, c'est déjà long pour nous. Hein. Alors, si tu le mets à l'échelle du temps d'un enfant, ça équivaut à Titanic ou à 2 questions de Nagui. C'est très très long. Donc, on va juste attester sur l'honneur. Et bonsoir. Et c'est comme ça qu'on peut s'en sortir. Regardez, Boris Johnson, il a attesté sur l'honneur qu'il pensait faire une réunion de travail quand il a fait une soirée festive chez lui en plein confinement. C'est une attestation sur l'honneur. Moi, à 16 ans, j'ai déjà attesté que j'en avais 18 pour aller sur certains sites. Wikipédia, par exemple. Et je vous rappelle qu'il y a 1 an, voire 2 ans même, on se signait nos propres autorisations pour sortir. On faisait ça. On a testé sur l'honneur. Il y a 3 ans, un PCR, ça voulait dire plan cul régulier. Enfin bref, à la rigueur, j'atteste sur l'honneur de Jean-Michel Blanquer. Ça voilà. Ça, je peux attester sur cet honneur-là parce que de toute façon, on n'est même pas sûr de la fiabilité des autotests. Ce qui est sûr, c'est qu'il sera toujours plus fiable qu'un ministre de l'Éducation nationale qui méprise le corps enseignant, sourd à son agonie avec son verre d'eau et qui le laisse prendre connaissance des nouveaux protocoles sanitaires au dernier moment par la presse. Bonne émission.
Merci
et bonne vibe.
Merci Jérémy Clotilde. Tanguy Passureau, de quoi vas-tu parler aujourd'hui?
Eh bien, je vais vous parler du vaccin. Demain, je fais la 3e dose et je fais aussi la 4e, la 5e et la 6e en même temps, comme ça, je suis peinard.
Et Jérémy Covid, oui, le 22 janvier à Marseille et le 29 janvier à Allennes-les-Arbouins, les Aubourdins.
Les Aubourdins, j'écris
les Aubourdins, t'écris mal.
C'est original avec Léa Capobudadi, Morgane Cadignan, Florence Mendel, Jérémy Crédville, Tanguy Passureau et notre invité Michel Bouchard. Oui. Michel qui sera ce samedi soir au Théâtre des Variétés avec l'Avare de Molière.
Et la Trouille, avec l'Avare et la Trouille.
Oh, oui. C'est vrai?
Ben bien sûr. Il y a un jeune acteur qui disait à Louis Jouvet moi j'ai jamais le trac et Jouvet c'est une phrase célèbre. Ouais. Vous inquiétez pas, ça viendra avec le talent.
C'est Jouvet qui disait ça, oui. Moi je pensais que c'était Sarah Bernard qui disait ça.
Pour moi c'était Ophélie Winter. Mais...
Ah bah voilà. Bon, on n'est pas loin.
Moi ça a été ma mère, mais bon.
Mise en scène par Daniel Benoît qui a modernisé, dynamisé ce texte qui, comme on l'a dit tout à l'heure, est extrêmement moderne. Encore une fois, on peut se dire, oh là là, mais Molière, Lavard, ça me rappelle l'école, j'ai étudié, ça me rappelle le bac de français, et ainsi de suite. Eh ben non, c'est vrai que de le revoir, de revoir cette pièce maîtresse de la signature de la plume de Molière, c'est un bonheur de modernité aussi.
Ouais, et quand on pense qu'il a écrit ça en une semaine, ça fait mal à la tête.
Oui, mais en sténo, quoi. Il allait très très vite.
Ouais, mais moi, en une semaine, même pas, j'arrive au bureau. De mon lit au bureau, je vais.
C'est le problème de Paris. Ça roule très très mal. T'avais des dates à donner pour Jérémy Crédville?
Oui, je voulais les dire à nouveau. Ah. Jérémy, le 22 janvier, tu serais à Marseille.
Ça, c'est bon.
Le 29 janvier, c'est à Allennes, les Aubourdins.
Exactement.
Parfait. Cœur avec les doigts. Voici Tanguy Passureau.
Alors d'abord, je voudrais préciser que je ne suis pas complotiste. Je ne pense pas que la Terre soit plate. Il suffit de monter en haut d'un phare et de regarder l'horizon pour constater qu'elle est ronde et constituée à 95% de mouettes. L'assassinat de Kennedy, je n'ai pas de thèse, à part qu'il aurait dû opter pour une voiture avec un toit.
Clairement.
Son côté kéké à décapotable l'a mis dedans. S'il avait plus ce jour-là, il serait encore vivant. C'est un type qui était fait pour vivre dans le Nord Finistère. Je ne pense pas que les Juifs contrôlent le monde. On parle de gens qui, à 55 ans, sont encore sous le joug de leur mère. Donc on se doute un peu qu'ils sont pas aptes à se partager la planète. Enfin, je pense que la princesse Diana n'a pas été tuée volontairement sous le pont de l'Alma, mais que son chauffeur conduisait comme un manche. C'est lui qui a inventé le concept des Uber. Et prenez les vaccins, j'en pense que du bien. J'ai tout fait. Coqueluche, tétanos, hépatite A, hépatite B. Là, c'est, il n'y a pas de vaccin. J'ai dit au médecin, pas grave, fais-moi les 23 autres. J'ai toujours été pro-vaccin. Grâce à Pasteur, parce qu'avec son vaccin contre contre la rage, il a évité à plein de gens de se baver dessus. Il n'y a plus que les sénateurs qui font ça, parce qu'ils sont vieux. Donc quand sont arrivés les vaccins contre le Covid, j'étais content. Je suis sorti de la piqûre en chantant comme un fakir qui viendrait d'obtenir son BTS. Première dose, nickel. Juste, je ne pouvais plus bouger le bras gauche. Mais bon, j'en ai un deuxième. Donc au spectacle, pour applaudir, avec ma main droite, je me giflais la joue. Hein, bon, malheureusement, les spectacles que j'ai vus étaient super. Il y a à chaque fois eu 3 rappels. J'ai eu très mal. Hein, les gens m'ont pris en photo et tagué Christophe André sur Instagram en écrivant, il y en a un ici qui a grand besoin de la force tellurique et de l'énergie des arbres, parce que de toute évidence, il n'est pas serein. Deuxième dose, j'ai cru que j'allais perdre mon bras. J'avais l'impression que Teddy Riner et Marine Le Pen, enfin des bonhommes quoi, hein, tiré dessus. Et là, demain, je dois faire le booster, la dose de rappel. Et c'est la première fois que j'y vais en traînant des pieds. J'ai pas peur, hein, bien sûr, j'ai peur de rien, à part de la mort et des chansons d'Hélène Segarra. Mais j'écoute les médecins à la télé et eux me font douter, ces fils de trous de la sécu. Oui, parce qu'avant, c'était la belle unanimité. Tous disaient, allez-y, vous allez voir, c'est génial. On avait tellement l'impression d'être dans un Disney que je m'attendais au centre de vaccination d'être piqué par Mickey. Heureusement, mon médecin avait de grandes oreilles et une voix aiguë. Donc ça m'a rappelé Mickey. J'étais rassuré. Pour plus de réalisme, je lui ai demandé de garder juste sa culotte et ses gants. Il a dit, ah, enfin, un patient un peu fun. Allez, loulou, viens voir derrière le rideau. Bon, la suite m'appartient. Et là, cette semaine, j'écoutais le professeur Combe, pro-vaccin, comme quasi 100% des médecins. Un type sérieux, quoi. Il a toujours été très alarmiste. Hein. En 2020, après l'avoir écouté, j'ai pas ouvert la bouche pendant 17 jours de peur de choper une gouttelette en suspension. Mes dents ont moisi à cause du manque de lumière. Et là, Eric Combe sur LCI a dit, clairement, ce n'est pas un bon vaccin. On est tous très déçus. Alors tous, ils parlent des médecins. En fait, ils ressentent la même chose que nous quand on voit la photo du Big Mac en vitrine chez McDo et qu'ensuite on voit le Big Mac en vrai, tout mou, qui sent c'est la chaussette. Clair. Ensuite, sur BFM, face à Bourdin, il a dit la même chose. Et chez Laurence Ferrari sur CNews, qui lui parle de la vaccination des enfants, ces êtres bruyants et chevelus qui rappellent Axel Rose des Guns N' Roses mais sans le Botox, comme a dit Omicron pour les enfants, c'est un rhume, on va pas vacciner les enfants contre un rhume. Alors moi, je dirais si, hein, parce que rien que pour éviter de les voir plein de morve avec le nez qui coule, ça vaut le coup. Il n'y a rien de plus inesthétique qu'un enfant enrhumé. Mais le souci, c'est qu'un enfant à qui on met une doudoune pour éviter qu'il s'enrhume, c'est encore plus moche. La solution reste de ne pas faire d'enfant. Hein, car comme on dit chez Manix, 4 secondes à jouir, une bouche la vie entière à nourrir. Non mais moi je suis perdu, Le variant Omicron, mais j'étais terrorisé. Olivier Véran parle de tsunami, de raz-de-marée. Il adore les métaphores liées à la mer. Hein. C'est un type qui a thalassa mais aurait fait un carton. Alors ok, il y a énormément de cas. Mais hier, l'Agence européenne des médicaments a dit Omicron va transformer le Covid en une maladie endémique avec laquelle on va enfin pouvoir vivre. L'OMS a ajouté combattre la pandémie à coup de dose de rappel de vaccin n'est pas une stratégie. Donc je fais quoi, moi, demain? J'ajoute que Pfizer sort en mars un vaccin adapté à Omicron. Mais moi, le 2 février, je perds mon pass sanitaire. C'est-à-dire que le soir de la victoire de Pécresse, en mai, quand Leïla m'écrira « Viens, je suis au Fouquet, en fait de Valou », je resterai dehors. Je verrai juste Leïla lancer des serpentins à Bruno Retailleau en hurlant « Vas-y, Nono, lâche-toi pour une fois, fais-la cette danse des canards hein ». Parce que le Pfizer booster, machin, si on en refait un nouveau en mars, si on en refabrique un, ça veut dire que l'ancien était plutôt adapté à la souche d'il y a un an et demi. Et c'est celui-là que je vais faire moi, le vieux vaccin, comme un ringard. Ça revient à craquer en 2022 sur Christine and the Queens. Mais si je veux prendre le train pour aller connaître le triomphe, devant des salles vides à 50% parce qu'on a terrorisé les gens, il me faut le pass. Hein, la troisième dose. Donc demain, j'y vais avec le même enthousiasme que la vache qu'on pousse vers un bâtiment sur lequel il y a écrit Charal. Alors certes, ça va sans doute me protéger moi, évidemment, protéger les autres, gna 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 gna. Ça fait 2 ans que je subis cette injonction à faire attention aux autres alors que ça ne me ressemble pas. Mais je préférais, franchement, quand 100% des médecins étaient sur la même ligne et que l'OMS ne commençait pas à douter. Franchement, ça me simplifiait vraiment la vie. Alors, au revoir, bras gauche. Demain, je te quitte à nouveau.
Merci. Bonne question. Injection pour des injonctions, c'est bien.
C'est vrai. Et Tanguy, tu es le 24 février à Montpellier.
Oui. Bah oui. Voilà. C'est vrai. Il faut
au
le
quorum.
Dire. Il faut le dire aussi. Et ça sera plein.
Et oui.
Voilà. Et oui. Michel Boujna, au théâtre des variétés, vous êtes justement, puisqu'on en parlait, inquiet du remplissage des salles
Non. Je me tiens pas au courant. Je sais que ça marche bien, mais je me tiens pas au courant. Je veux pas me tenir au courant.
C'est une pression que vous ne voulez pas
mettre.
Oui,
oui, ça va. Je veux dire, parce qu'on entend tout et son contraire. Je veux dire, on entend qu'il y a des salles pleines dans certains théâtres. D'autres me disent, il y a des gens qui achètent des places et qui annulent et qui viennent pas.
Beaucoup achètent au dernier moment, en tout cas.
Sait que les gens achètent au dernier moment parce qu'ils savent pas comment ça va se passer avec les conditions sanitaires et tout ça. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que il a été reconnu que les théâtres c'était des lieux sûrs, parce que contrairement au restaurant, on n'a pas besoin d'enlever le masque pour écouter un texte. Et puis que les plafonds sont très hauts, que
l'aération fonctionne, voilà. Et que ça n'a jamais été des clusters. Je tiens juste à préciser une chose, j'ai beaucoup insisté sur la date du 15 janvier, parce que c'est le 400e anniversaire de Molière, mais c'est à partir du 15 janvier que vous jouez au théâtre des variétés, et pas uniquement le 15 janvier, c'est à partir janvier.
Non, on va jouer beaucoup. On va jouer beaucoup.
C'est très relatif, ça. Beaucoup, ça veut dire jusqu'à quand?
Beaucoup, ça veut dire qu'on...
Vous
beaucoup.
Êtes parti
Non, mais j'ose pas le dire, mais on a signé
jusqu'en
pour 100...
Jusqu'en juin?
On a signé pour 100 représentations.
Jusqu'au printemps, donc.
Avec prolongation, si ça fonctionne
oui,
bien.
Oui, il y a un moment, il va falloir retourner à Ramatuelle, quand même. Vous n'allez pas...
La programmation est presque terminée, mais Ramatuelle, c'est 1er août.
Oui, oui.
Et avant, il va falloir, à un moment donné... que je trouve un moment pour me reposer,
pour
parce que c'est sûr que ça va être épuisant, mais c'est tellement...
Mais ça en vaut la peine, Michel.
Oh, plus que ça.
Dites-vous que ça en vaut la peine.
Plus que ça, je veux dire, si maintenant je fais pas ça, je ferai plus jamais. Je veux dire, je vous rappelle au passage, et même si ça m'emmerde énormément, mais dans 9 mois j'aurai 70 ans. Et donc, il est temps que je me presse un peu, moi qui suis d'une nature extrêmement lente.
Mais peut-être que le travail aussi, et ce jeu-là, vous maintient en forme et vous pousse.
Oui, c'est sûr. C'est sûr qu'elles me disent toutes que je fais pas mon âge. Ouais. Mais... j'adore inventer des histoires.
Tous.
Tous aussi.
Ouais. Donc, à inventer des...
Mais c'est... C'est bien sûr que ça me maintient en forme, bien sûr.
Que va-t-il se passer dans le monde de la culture, à part évidemment l'Avare au théâtre des variétés, Leïla?
Quel est le point commun entre Proust, César Franck, Rosa Bonheur, Ava Gardner ou encore Pasolini?
Ils n'ont jamais été dans le top 50.
Oui, ça c'est sûr, mais c'est pas la réponse que j'attends.
J'ai trouvé la bonne réponse.
D'accord, non.
Il y a un nouveau livre qui sort.
Proust, César Franck, Rosa Bonheur, Proust, Ava Gardner,
attends.
Pasolini.
Leur éditeur?
On pourrait rajouter Molière.
Waouh. Wow.
Ils ont travaillé sur des œuvres autobiographiques?
Non.
Ils sont pas enterrés au même endroit?
Non plus.
Adaptés en série?
Non plus.
Ils sont morts.
Ils sont morts.
De la même maladie,
année, mais c'est l'anniversaire de leur décès.
Voilà.
Ah,
tous vont vivre en tout cas un anniversaire en cette nouvelle année avec des expositions, des concerts, des rééditions, des rétrospectives. Proust est mort en 1922. César Franck, Rosa Bonheur sont nés en 1822. César Franck, c'est le compositeur. Rosa Bonheur, c'est l'artiste. Ava Gardner et Pasolini, eux, sont nés en 1922, donc des anniversaires avec des événements autour de leur naissance, de leur mort, histoire de rappeler l'ampleur de leur création, de leurs œuvres. Est-ce qu'il y a aussi, de votre côté, Michel Boujenah, des artistes,
une
des grands noms
prévue.
Non, des grands noms que vous aimez honorer, des auteurs, des artistes, des gens qui comptent et dont on parle peut-être un peu moins.
Mais ça va être le centenaire de Raymond Devos.
Va se frotter à ça, parce que là il faut oser.
Ben, l'idéal, ça serait qu'on fasse
tant qu'il passe sur eau peut-être.
Non, mais vous savez que François Morel a repris Raymond Devos sur scène avec succès.
Mais d'ailleurs, si on essaye de monter un anniversaire du centenaire, on a demandé à François Morel évidemment de venir. Il y a un projet qui est en train de se construire.
Vous voulez faire au Ramatuelle?
Ramatuelle, je sais pas. Il y a un projet aussi avec Daniel Benoît sur le centenaire de Devos. On avait fait un truc à propos de Desproges au théâtre à Antibes qui était super. Et je lui ai dit, mais pourquoi tu ferais pas un truc sur Devos, puisque c'est son centenaire. Jacqueline Franjou, la présidente du festival de Ramatuelle, veut faire une chose autour du centenaire de Raymond. Il va y avoir des choses sur Raymond Devos, c'est sûr. Moi, ce qui me chagrine dans cette histoire de Raymond, c'est que quand vous demandez à des gens de 25 ans, Raymond Devos, ils ne connaissent pas.
Ah ouais?
Ah ouais, c'est incroyable.
Peut-être 25, ouais.
25, ils connaissent pas.
Non, non, mais je suis pas étonné, parce que c'était vraiment quelque chose qui était d'abord particulier et
moi, je regardais ça avec mon grand-père,
j'ai 35. Non, et qui a pas beaucoup été rediffusé, c'est-à-dire qu'il y a pas eu de...
Non, non, et pourtant, dans certaines écoles, on l'étudie.
Enfin, est-ce que Fernand, est-ce que les sketchs de Fernand Reynaud sont connus par les enfants de 25 ans? Je crois pas non plus.
Non, non, mais Raymond, c'est beaucoup plus récent que Fernand Reynaud.
Oui, mais je veux dire, c'était très fort aussi Fernand Reynaud.
C'est monstrueux Fernand Reynaud, c'était le numéro un. D'ailleurs, c'était un grand voleur. Vous savez que c'était un grand voleur Fernand Reynaud.
C'est-à-dire
c'était
au sens propre du terme.
Ah oui, il plagiait. Il allait dans les cabarets. À l'époque, il n'y avait pas d'internet et tout ça. Il allait dans les cabarets et quand il était là, tout le monde disait ne fais rien de nouveau.
Fais pas ton...
Fernand est dans la. Mais la plus belle histoire de. On a le temps ou pas? Parce qu'il y a une histoire extraordinaire à propos de Raymond DeVos et de Fernand Reynaud qui se connaissaient évidemment. Raymond, il était un peu. Moi, je suis un peu comme. Enfin, il était un peu comme moi. Il adorait raconter. Donc, dès qu'il trouvait n'importe qui, il racontait ce qu'il était en train d'écrire. Et un jour, il raconte à Fernand Reynaud. Une idée de sketch qui est l'idée du défilé militaire, qui est devenu un sketch très célèbre de Fernand Reynaud.
Absolument.
Le soir même, Fernand Reynaud le fait dans un cabaret. Raymond DeVos apprend ça, il abandonne l'idée, il dit bon, Fernand l'a pris, c'est fini. D'autant plus que Fernand Reynaud était beaucoup plus connu que lui.
Fernand Reynaud prenait Johnny Hallyday en première partie aussi.
Oui, c'est vrai. Et un jour, il se retrouve dans une émission qui s'appelle 36 chandelles de Jean Nohain, où il y avait plein d'humoristes comme ça, Roger Pierre, Poiré, Serrault, enfin bon. Et puis Fernand Reynaud est sur scène et il fait le défilé militaire. Et les autres, ils sont autour d'une table. Il y a Roger Nicolas,
il y a Raymond DeVos.
Et Raymond est là. Et Raymond regarde ça et il se dit, bon, mais je vais leur dire. Et ils vont me croire parce que tout le monde savait qu'il volait tout. Et il leur dit, il va leur dire, vous savez quoi, ça, il me l'a piqué. Au moment où il va le dire, il y a Roger Nicolas qui lui coupe la parole, qui dit, vous savez quoi, ça, il me l'a piqué. et c'est Raymond DeVos qui me l'a raconté en mourant de rire, en me disant, on m'a volé deux fois.
Autre question. Alors qu'il cartonne dans le dernier Spider-Man, qu'a demandé comme garantie Tom Holland pour continuer la saga?
Qu'on arrête de le comparer à François.
Sur sa vie privée.
Ça, c'était le deuxième aspect de la demande.
Que sa partenaire soit payée autant que lui.
Non.
Je crois qu'il est à Paris en ce moment, d'ailleurs, lui.
C'est en rapport avec Comme Zendaya, j'imagine.
C'est en rapport avec le salaire?
Non, c'est pas le salaire.
Avec l'histoire
prochain épisode.
Il veut pas mourir.
Attendez, vous êtes beaucoup trop nombreux.
Oh et oh.
Il veut pas mourir dans un épisode.
Non, c'est pas par rapport à sa mort, au scénario.
C'est par rapport au scénario.
À sa fiancée.
Il veut pas.
Ouais, alors oui, par rapport à.
On arrête de parler de sa vie privée.
Non, pas ça.
Il veut que ce soit sa femme qui joue le rôle de sa maîtresse dans le film.
Par rapport à la distribution.
La diversité.
Plus de diversité.
Plus de diversité, absolument. Il considère qu'il serait bon d'apporter un peu plus de cette diversité à la franchise. Spider-Man qui se renouvelle en faisant toujours avec les mêmes choses. Les incarnations de Spider-Man, ça a toujours été les mêmes. On est tous pareils. Ce serait bien d'avoir quelque chose de différent.
Je suis d'accord.
Qui laisse planer le doute d'ailleurs sur son retour.
Le prochain Spider-Man, que ce soit Victor Boutboul. Victor Boutboul qui joue Spider-Man. Voilà. Non, tu vas, attends, qu'est-ce que tu veux? Attends, je vais t'attacher avec moi. Et zing, 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 zing. Et à la place de la toile d'araignée, c'est des boulettes qui l'ont pas. Je suis pour la diversité. Et tiens, tac, un peu de couscous, tac,
dans les yeux
de Mlouria. Il aveugle les types avec la Mlouria.
C'est pas Spider-Man, c'est musulman.
Voilà. Tout ça pour demander Michel Bougelin, justement, la diversité dans la distribution des pièces de théâtre. On parle de l'avare de Molière, on voit sur scène évoluer des artistes, des acteurs, des actrices.
C'est vrai qu'ils sont tous...
Blancs,
c'est vrai. Mais vous savez qu'à la Comédie-Française, il y a un Bougenat quand même.
Sans doute, mais je reviens quand même à mon sujet, parce que ça m'intéresse davantage.
Il n'est pas machiniste, abruti, il est acteur.
Il fait les sandwichs.
La distribution d'une pièce de théâtre, là aussi, est-ce que vous avez votre mot à dire ou pas? Est-ce que cette question, vous l'êtes au moins posée avant de vous lancer dans l'avare, que éventuellement, on peut faire confiance aux spectateurs et que peu importe la couleur de peau l'interprète...
C'est pas Michel qui fait le casting.
Non, mais en tout cas, je parle
Je suis moi, finalement, un peu la preuve qu'il y a une diversité, parce que...
Non, vous êtes un nom, c'est pas pareil.
Ah.
Vous êtes connu, Michel Bougenat.
Oui, mais enfin, on m'a jamais proposé de jouer. Il y a plein de personnages qui m'ont échappé dans ma carrière.
Et ben justement, c'est pour
parce
ça que
je suis, parce que je suis moi et qui je suis.
Et justement, c'est pour ça que dans l'autre sens, on pourrait aussi se dire que justement parce que vous êtes vous et qui vous êtes et que justement vous n'êtes pas celui auquel on pense directement peut-être pour incarner Harpagon, qu'on peut avoir envie d'ouvrir aussi dans les troupes de théâtre à d'autres interprètes.
Mais bien sûr, évidemment. Moi, j'avais vu la tempête montée par Peter Brook. Ouais. Où il n'y avait pas un acteur qui avait les mêmes origines, c'était magnifique. Mais vraiment magnifique.
Moi, je trouve quand même que prendre un juif pour jouer l'avare, c'est limite.
Voilà. Oui, on me l'a souvent dit. C'est pour ça que je rentrais à un moment donné en me signant pour rappeler aux gens que Harpagon n'est pas juif.
Voilà, c'est ça.
Excuses. Au cas, il y aurait des antisémites dans la salle. Hélas, il y en a.
Excuses à présenter.
Mais complètement.
Morgane, Cadignan.
Merci, Nagui. Désolée pour Zabou Bretman qui, ce matin, a découvert que son fils regrettait un petit peu qu'elle soit sa mère.
Alors, non. Non, il adore sa mère.
C'est vrai que ça pique un peu, mais on va être honnête, comme fils, il vaut pas grand-chose. Et enfin, désolée pour nos auditeurs militants qui ont regretté qu'on donne la parole à des invités foutu de tenir un fusil correctement. En même temps, je rappelle qu'on a un animateur qui s'est fait réformer pour pas faire le service militaire.
Exactement, P4.
Laurence, Leïla, heureusement qu'on tient la boutique.
L'Avare, c'est au théâtre des variétés à partir de ce samedi. Fête donc 400e anniversaire de la naissance de Molière, ou approximativement, mais en tout cas c'est le point de départ d'une série de spectacles, au moins d'une centaine de représentations. Si le physique, le corps et le dos de Michel Boujna tiennent pendant ces 2h30, bah c'est une prouesse aussi sur scène. On voit pas le temps passer, mais c'est une prouesse à jouer. 12 acteurs qui se retrouvent sur scène autour de vous, parmi ces acteurs. Je les avais pourtant.
Regarde.
Il y a Bruno Andrieux, il y a Mélissa
Sophie
Pratt.
Bourdin, Mélissa Pratt, Mathieu Métral, Bruno Andrieux, vous l'avez dit, Fanny Valette, Antonin Chalon, Paul Charrieras, Fabien Houssaye et Julien Nakache.
Merci Leïla, merci Michel, merde pour samedi.
Et je vous remercie de les citer parce que je peux vous dire une chose, je fais pas mal d'interviews et tout ça. Et c'est rare qu'on parle de mes partenaires et je suis très content et je m'en veux souvent de l'oublier et c'est très important.
Faites des pièces avec moins de partenaires, ce sera plus facile. Arnaud Ducré, Géraldine Pella seront nos invités demain. Passez une bonne journée. Voici les carnets de campagne de Philippe Bertrand.